Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le 29e pour notre 11e saison, première partie, avec notre invité du jour, Philippe Chartier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Philippe Chartier, vous avez écrit un livre, entre autres, mais celui qui vous emmène aujourd'hui à ce micro, s'intitule « Infectiologie et vaccination ». Alors, on va y revenir, bien entendu, en détail, surtout sur la seconde partie, parce que la vaccination, c'est à la fois un phénomène scientifique, médical, mais c'est devenu une sorte de fait de société très contesté, donc on y reviendra. Mais l'intérêt de votre livre, et j'imagine votre motivation première, ça a été quoi? Ce livre est intitulé « Essai ». Bon, qu'est-ce que vous voulez apporter dans la lecture de ce livre, monsieur Chartier?
Alors, ce livre, je l'ai fait avec le cœur, et je l'ai fait surtout pour me remémorer un petit peu mes premiers pas dans le monde professionnel, puisque j'ai démarré mon activité professionnelle en tant que microbiologiste en milieu hospitalier. Et c'est un monde qui la microbiologie, donc les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, c'est un monde qui est un peu spécial.
Et avec lequel vous êtes familier depuis longtemps.
Voilà, donc j'ai travaillé en particulier sur les bactéries, les parasites un petit peu, les champignons aussi, beaucoup moins sur les virus, parce que, comme on le verra peut-être tout à l'heure, le virus c'est quand même un petit peu particulier dans la mesure où c'est infiniment petit, donc il faut un matériel spécialisé pour pouvoir l'observer.
Mais vous avez un parcours, vous avez fait d'autres choses dans votre vie ensuite.
Alors oui, j'ai fait des études de kinésithérapie que je n'ai pas terminées.
Une petite parenthèse, pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la kinésithérapie?
Ah ben c'était le fait d'être en contact avec le patient en particulier, puisque dans le domaine de la microbiologie, bien oui, on est bien seul devant sa paillasse, comme on dit, hein, oui. Puisque la paillasse, c'est le terme utilisé, c'est le plan de travail.
Voilà. Voilà. Donc, alors, vous revenez à vos premières amours entre guillemets, mais justement parce que vous détectez aussi qu'il y a probablement une méconnaissance au niveau du public.
Oui, et ce que je trouve, c'est normal, bien évidemment. Hein, ce sont des micro-organismes, cela dit, qui ont une importance toute particulière dans notre vie, puisque les micro-organismes, ils nous habitent entièrement. Alors, ils équilibrent notre santé, mais ils peuvent aussi nous créer la maladie, les pathologies auxquelles on doit faire face.
Oui. Et voilà, c'est implicitement contenu dans votre titre. Infectiologie, c'est ça, quoi.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Hein, infectiologie, donc le caractère pathogène, en fait infectieux, de certains micro-organismes comme les bactéries, les virus, les champignons, les parasites.
Alors là, on est un peu dans la médecine, mais vous dites bien dans votre livre, je ne suis pas médecin.
Non, je ne suis pas médecin. Cela dit, dans toute ma carrière, passée dans l'industrie pharmaceutique, mon rôle a été d'apporter une information aux médecins. Donc pour pouvoir apporter une information au médecin, il faut avoir les connaissances nécessaires. Et dans le domaine que l'on présentait vis-à-vis de nos interlocuteurs, on était en mesure d'en connaître davantage par rapport à un médecin. C'est-à-dire que nous, on était beaucoup sur la théorie. Le médecin, lui, est plus sur la pratique.
C'est ça, mais le microbiologiste, par exemple, la microbiologie, c'est une partie de la médecine.
C'est une partie de la médecine, bien évidemment, et c'est une partie importante parce que la microbiologie permet d'identifier en fait la bactérie, enfin le micro-organisme responsable de la pathologie du patient, mais permet également de guider le médecin dans le choix, par exemple, d'un antibiotique.
Oui, voilà, par exemple, oui. Donc c'est d'une connaissance qui est apportée à la médecine.
C'est ça. Tout à fait.
Oui, oui, oui. Alors, quand vous parlez de microbiologie, le mot micro, microbe, ça, immédiatement, pour le commun des mortels, ça implique la notion de tout petit. Et alors, vous expliquez ce que beaucoup de gens confondent, la bactérie et le virus. Alors, essayez, Philippe Chartier, en termes aussi simples que possible, pour nos auditeurs, d'expliquer la différence.
Alors, la différence, elle tient en fait sur quelques critères. La première différence entre une bactérie et un virus, c'est déjà la taille. Il faut savoir que au niveau d'une bactérie, on est au niveau du micron.
C'est-à-dire un millionième de mètre, un millième de millimètre.
C'est ça. un millième de millimètre. Hein. Et au niveau du virus, on est encore à une taille beaucoup plus petite, sans doute 100 fois encore inférieure. Et c'est la raison pour laquelle, pour observer un virus, il faut un matériel qu'on appelle le microscope électronique, que tous les laboratoires ne peuvent pas se permettre d'avoir à disposition.
Et alors, est-ce que pour cette raison, la technologie, on a mis du temps à découvrir les virus alors qu'on avait déjà découvert les bactéries ?
Oui. Parce que
les microscopes ne le permettaient pas.
Les microscopes ne le permettaient pas, d'arriver à observer des organismes aussi petits.
Quoi, c'est ça.
Voilà. Alors, la deuxième différence entre une bactérie et un virus, c'est qu'une bactérie est composée d'une paroi, d'un cytoplasme, de ribosomes et parfois de flagelles qui permettent à la bactérie de se déplacer, comme on l'a en photographie sur la page du bouquin. Par contre, un virus, c'est une organisation qui est très simpliste et qui se comporte en fait comme un parasite. C'est-à-dire que pour que le virus puisse vivre, il faut qu'il pénètre dans une cellule de l'organisme. Qu'une bactérie peut se...
Est autonome.
Une bactérie est complètement autonome.
Oui, voilà.
Voilà, donc ça c'est la deuxième grande différence. Et puis la troisième différence, je vais vous dire, ça va être principalement au niveau de la prise en charge thérapeutique. C'est-à-dire qu'une bactérie, on va pouvoir la neutraliser avec un arsenal thérapeutique bien connu que sont les antibiotiques. Et vous avez donc plusieurs familles d'antibiotiques. Et le rôle du microbiologiste, bien évidemment, c'est de guider le médecin par l'intermédiaire de l'antibiogramme, donc de l'antibiotique à utiliser.
Oui, du fait de la nature de la bactérie.
Voilà, du fait de beaucoup de paramètres biologiques hein, de la bactérie. Par contre, un virus, vous pouvez donner un antibiotique, ça marchera pas dessus. Un virus, on va le prendre en charge par soit un antiviral, soit du paracétamol, et on va attendre que l'infection soit maîtrisée.
Oui, alors justement, pour en revenir à ce que l'auditeur moyen et le citoyen moyen comprend, vous vous souvenez de la formule, les antibiotiques, c'est pas automatique, ça veut dire qu'on a essayé aussi de ne pas en abuser, parce qu'on y reviendra peut-être. Si on en prend trop, à un moment, on développe une résistance à ces antibiotiques.
Oui, c'est un phénomène d'ailleurs qui est très préoccupant actuellement.
Voilà, semble préoccuper le corps médical.
Absolument, parce qu'aujourd'hui, il y a certains patients qui sont résistants. Enfin, les bactéries, les organismes infectieux sont résistants à tous les antibiotiques. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de trouver des solutions différentes pour pouvoir maîtriser l'infection. Donc, ce qui veut dire en fait que l'antibiothérapie, elle doit être raisonnée. Et je vais vous donner un exemple également qui permet de distinguer, par exemple, une angine. Vous pouvez avoir une angine bactérienne ou avoir une angine virale.
Ah.
Et dans ce cas, l'approche thérapeutique n'est pas du tout les mêmes. Si on traite à l'aveugle, on va donner un antibiotique. Sur une angine virale, ça marchera pas. Mais le patient aura toujours ingurgité ses antibiotiques et les bactéries de l'organisme, eh bien, vont s'habituer à cette ou à ces antibiotiques et vont développer des résistances par rapport à ces antibiotiques.
Et en plus, inutilement, puisque
inutilement, bien sûr.
Et alors là, par contre, c'est au toubib, au médecin, de faire la différence par rapport aux symptômes.
Alors
entre l'angine bactérienne et l'angine virale.
Virale, voilà. Et il existe aujourd'hui des tests que l'on fait en pharmacie qui permettent de distinguer l'angine virale de l'angine bactérienne.
Oui, voilà.
Auquel cas, l'approche thérapeutique ne sera pas du tout la même et sera adaptée au cas bien précis.
Voilà. Et alors, l'infectiologie, alors c'est qu'est-ce qui rend malade finalement ? C'est plutôt les bactéries ou plutôt les virus ?
Ah ben les deux peuvent rendre malade. Cela dit, vous avez par exemple dans l'intestin.
Alors là, c'est la ce qu'on appelle la flore microbienne.
Enfin, c'est la flore
intestinale. Le microbiote, c'est ça.
Le microbiote, exactement. Vous avez 100 000 milliards de bactéries.
Paraît-il, je les ai pas comptées.
Voilà.
C'est ce qui dépasse un peu l'imagination.
Ça dépasse. C'est impressionnant.
Paraît-il, certains disent que l'estomac c'est un deuxième cerveau. Ça vous paraît pertinent, ça ?
Ça paraît pertinent pour la simple et bonne raison que, par exemple, la sérotonine que l'on utilise dans notre cerveau pour régler l'humeur, par exemple, etc., est sécrétée au niveau intestinal.
Oui.
Donc, les intestins sont notre deuxième cerveau. Et si on isole ces 100 000 milliards de bactéries, qu'on les pèse, ça représente 1,5 kg de bactéries dans nos intestins.
Ah bon, on a réussi à évaluer ça.
Tout à fait.
Mettre ça sur la balance.
Alors, dans ces 100 000 milliards de bactéries intestinales, vous avez 80% de bonnes bactéries, de bonnes bactéries, et 20% de bactéries un petit peu plus embêtantes. Et c'est l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries
qui fait la bonne santé. Philippe Chartier, on marque une première pause. On se retrouve, alors, pour revenir un petit peu sur ce 80 et 20, l'infectiologie, et puis on abordera le domaine de la vaccination.